que la poésie, ça n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est pas une question de pure effusion. Encore faut-il savoir écrire. C'était au fond les conseils les plus simples. Plutôt d'ailleurs des conseils moraux, des conseils de conduite générale de la vie, et puis de prise de la poésie, enfin très au sérieux, des conseils visant à devenir vraiment un homme authentique, plutôt que des conseils proprement littéraires. Les conseils littéraires qu'il donnait, c'était au fond, il ne le cachait pas, des conseils presque scolaires, un peu ce qu'on recommande aux lycéens pour faire des dissertations de lettres, de faire un plan, d'être aussi concis que possible, aussi clair que possible, et qu'il y ait un commencement, un milieu et une fin, etc. Et surtout de bien se garder de jargonner, n'employer qu'un vocabulaire très simple. Ça, il y tenait beaucoup.
Oui, je crois d'ailleurs qu'il avait une phrase qui lui était propre pour désigner le langage qu'il souhaitait qu'on emploie. C'est le langage de la plus vieille
femme. La plus vieille femme de la maison. Oui, il disait souvent cela. Et ce qu'il conseillait aussi, c'était de fuir à tout prix le vocabulaire psychologique, par exemple. Et je crois que c'était un très bon conseil qui dépassait le conseil purement stylistique. Et ça, je m'en suis aperçu par la pratique. C'est un conseil qui est très utile pour arriver à mieux, pas seulement mieux cerner, mais mieux creuser sa pensée. Il est possible, peut-être même probable, que Apollinaire ait été un plus grand poète que Max Jacob. C'est ce que Max Jacob, avec la plus merveilleuse honnêteté, reconnaissait tout le premier. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire chez Max, c'est tout le côté souffrance du poète. Tous les poètes ont leur souffrance, certes, mais souffrance du poète pour la poésie. Et c'est ça qui passait enfin dans ses écrits et qui me touchait d'une façon extraordinaire.
Et je pense que Nerval et Rimbaud sont pour vous ce qu'on pourrait appeler des poètes exemplaires. Ils ont peut-être, ou ils paraissent pour nous au XXe siècle, avoir réussi cette fusion de l'art et de la vie.
Je crois que pour eux, on ne peut pas dire qu'ils ont réussi une fusion. Ça, c'était comme ça. Il faut bien dire que leur vie, à tous deux, d'après les critères communs, ont été des désastres. Nerval, ça va dans la folie et ça s'achève avec le suicide. Rimbaud, c'est la fuite en Abyssinie, ce qui, à un certain point de vue, ne valait guère mieux. Ce sont, en un certain sens, deux échecs monumentaux. Mais les échecs, je crois, absolument inévitables de toute poésie authentique. On ne conçoit, à mon sens, on ne peut pas concevoir un poète qui réussisse. Il ne peut que s'effondrer dans la catastrophe.
C'est dans un texte que vous avez consacré à Michel Liris et Georges Bataille. Vous notez que ni l'un ni l'autre ne peuvent être qualifiés de poètes. Pour Michel Liris, vous dites qu'il se rattache à la poésie seulement par l'invention joueuse du langage enfantin. J'y ajouterai les dernières lignes de Fibrille, où, évoquant son suicide manqué, Liris dit que c'est à ce moment-là qu'il a embrassé le plus étroitement cette chose fascinante, la poésie. C'est donc le dernier mot de Fibry.
Oui, c'est d'ailleurs, je crois, dans Fibry qu'il y a des éléments très, très, très intéressants de son rapport à la poésie, qui est, je crois, bien qu'il ait publié plusieurs livres de poésie, même très tôt, puisque ses recueils au moment du surréalisme, au moment de son adhésion au surréalisme, sont déjà oniriques et déjà des textes de poésie, mais qu'il a toujours le sentiment... on a l'impression qu'il l'a, même lorsqu'il écrit des livres de poésie, qu'il est de quelque façon exclu de ce royaume parfait qu'est la poésie. Et justement, cette phrase m'avait beaucoup frappée, cette phrase « j'avais souhaité être poète » ou « j'ai souhaité être poète » qui est dans le contexte, je crois que c'est justement dans Fibry, il en parle comme de quelque chose de non réalisé, c'est-à-dire comme si lui n'était pas digne d'être poète, et c'est où il dit à ce moment-là, eh bien, tant pis, à peu près, je vais me résigner à faire mon métier d'écrivain dignement. Mais il est bien évident que le métier d'écrivain est quelque chose comme un repli par rapport à ce que serait le geste d'envol du poète. Au fond, c'est un peu la nostalgie de l'envol qu'évoque Léris. Mais certainement, chez lui, le rapport à la poésie est compliqué parce que il passe toujours par la personne du poète. Et dans la mesure où lui ne se reconnaît pas cette personne, cette personnalité, cette identité de poète, alors il pense qu'il n'a pas accès à la poésie. Or, la poésie, c'est peut-être aussi cette sorte de tremblement du langage radical qui fait que l'identité elle-même est suspendue. Mais lui tient beaucoup à cette sorte de personne, de personnalité, d'identité. Et c'est peut-être lié à tous ces rapports très étranges à l'identité qui sont les siens.
Parce que si le dernier mot de Fibry est la poésie, oui. Y a aussi quand même ce fait qui n'est pas innocent, c'est que après la tentative de suicide, donc,
oui.
Il va 57, c'est ça. Oui, il va écrire donc en 1957, Vivante cendre innommée. C'est-à-dire qu'il va reprendre l'écriture poétique. Non seulement il termine le livre sur la poésie, en disant « c'est lors de cette tentative de suicide oui. que j'étais au plus proche oui. de ce que peut oui, être oui. la poésie », ce qui est d'ailleurs, bon, si vous avez une explication...
Non, j'ai pas d'explication, mais je me demande si pour lui, d'avoir tenté quelque chose qui était un geste malgré tout héroïque, faisait pas que d'un seul coup, cette personnalité... comment dire, au ras du sol, tout d'un coup avait eu une sorte de brevet, comme s'il avait été pilote pendant un instant d'un avion très dangereux, ce qui lui donnait un peu le droit, au fond, de se rapprocher de ce pays très mystérieux qu'est la poésie. Tout d'un coup, ayant dans son identité cette sorte de certificat d'avoir été candidat au suicide, un acte tragique, lui donnait tout d'un coup cette sorte de brillant qui faisait qu'il avait le droit.
Comment interpréter ça? Écoutez, je crois d'une part, quand il a fait cette tentative, il était fort ivre.
Jean Jamin.
Ce qu'il décrit du nombre de verres et de mélanges qu'il a fait passant du champagne au vin, du vin au whisky, du whisky au vin. Donc je crois qu'il a fait ça dans un mouvement comme ça, extraordinairement déprimé, comme c'est souvent le cas quand on a bu beaucoup, on a une phase de dépression après l'euphorisation du début. Et là je crois qu'il a paniqué, tout simplement. Bon, on disant à sa femme, bon, ben, je viens de prendre des somnifères, et si elle n'avait pas été là, probablement, parce que il reste quand même 3 jours dans le coma, il a une trachéotomie, c'est pas une mince affaire, hein, qui lui est arrivée là, tout de même. Il revient de loin, comme on dit. Donc, on peut pas non plus considérer que c'est une comédie. Enfin, bon. Encore que chez Léris, comme il le disait lui-même, qui suis-je dans mon autobiographie? Est-ce que je suis un être de papier, puisque au fond je m'écris au présent, je veux être au présent, et par rapport à ma vie quotidienne, enfin, où est le vrai Léris? Est-ce que c'est dans ma vie? Enfin, ça c'est toute la question que se posent, je crois, les autobiographes à un moment ou à un autre, enfin, les autobiographes tels que Léris conçoit l'autobiographie. Puisqu'il s'agit au fond de se redéfinir, de redéfinir son jeu. Et donc il ne sait plus à un certain moment si c'est lui qui parle ou si c'est la littérature qui le fait parler. D'où cette réflexion qu'il a faite d'ailleurs à propos de Picasso, quand il a écrit cet ouvrage, enfin cet article qui est un des grands articles de Léris sur Picasso, le peintre et son modèle, et qu'il conclut par cette phrase de Picasso, au fond, la peinture me fait faire ce qu'elle veut. Et Léris se demande à un certain moment si la littérature ne lui fait pas faire ce qu'elle veut.
Je suis en train de chercher un poème justement, je connaissais, qui est dans Vivant de cendre, innommé. Parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a chez Michel Léris, j'allais dire, un certain goût, une certaine hantise du merveilleux surréaliste. Et quand on lit un poème comme Toi,
oui.
Mon livre doré sur tranche que je veux lire de bout en bout, mon gâteau d'anniversaire qui n'a pas besoin de bougie pour être illuminé, ça rappelle étrangement Breton
Éluard
oui. ou même Benjamin Perret.
Oui, hein? Oui, tout à fait.
Et ça, c'est écrit en 1957-1958.
Ah oui, je crois que le passage...
Après la tentative de suicide, justement.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et peut-être, justement, cette tentative de suicide l'a rapproché du merveilleux surréaliste auquel il ne se donnait plus le droit de s'approcher. Et je pense qu'en effet, pour lui, le passage par le surréalisme pour Léris a été quelque chose vraiment de fondamental. Et c'est là qu'il a commencé. Enfin, je veux dire, ça a été fondamental, on s'aperçoit, pour un nombre de gens extraordinaires, finalement, ce moment du surréalisme. Et je pense qu'on est en train de s'en réapercevoir maintenant. Mais pour Léris, justement, cette idée du merveilleux, ça a été quelque chose qui l'a tellement fortement ébranlé que je crois qu'il continue à situer la poésie de ce côté-là. Et peut-être dans la mesure où il ne se sentait plus capable de produire ce merveilleux, il se sentait exclu de l'horizon poétique. Qu'il a approché peut-être à certains moments, par exemple, même dans son voyage en Afrique, finalement, il y a eu ces moments dans lesquels il a assisté à ces phénomènes de possession qui ont été pour lui si émouvants, si troublants. Je pense que là, il a eu de nouveau cette sorte de présence du merveilleux. Et il l'a eu peut-être justement au moment, mais la première fois au moment du surréalisme, et puis de nouveau après son suicide. Mais je crois qu'il n'a pas cessé finalement de dire que la poésie avait été pour lui la plus grande affaire. Je crois qu'il en parlait, je me souviens qu'il en parlait tout à fait dans les derniers temps de sa vie. Encore du fait que la poésie avait été pour lui le centre de ses préoccupations. Mais je pense que pour lui, ce qui a été fondamental, ça a été vraiment ces expériences aussi du sommeil hypnotique et de l'onirisme, en fait, des rêves. Ça a été vraiment le déclenchement, justement, du merveilleux, c'est-à-dire ces expériences des sommeils hypnotiques de Desnos et des autres, en fait, de cette réserve de merveilleux. Et Léris, je me demande si sa psychanalyse avec Adrien Borel a eu un effet d'éloignement par rapport au merveilleux surréaliste et au merveilleux onirique, disons, et à la croyance, et enfin, en tout cas, à la conviction de la possibilité d'accéder à ce que Bataille appelait aussi, d'une façon surprenante pour nous, connaissance lyrique. C'est une très belle expression, mais on a aujourd'hui, même si on aime la poésie, on sauve la poésie, on est au-delà de la haine de la poésie, celle qu'exprime Bataille, celle qui a été exprimée à un certain moment aussi contre les poètes, disait Jacques Vachet. Si on a cette impression de pouvoir reprendre la poésie, le mot lyrisme a certainement vieilli beaucoup plus. Or, cette expression connaissance lyrique de Bataille est très intéressante. Et je crois que il y a chez Lyris, au départ, cette sorte de sentiment de la richesse du merveilleux qui est possible d'atteindre. Et c'est comme si, chez lui, une source s'était un peu tarie, c'est-à-dire comme s'il avait perdu un peu l'accès, s'il avait perdu un peu la clé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça chez lui.
La mer en deuil, c'est la mort qui attend au bord du fossé où se reflètent les nuages troubles. C'est les obsèques du père un matin d'hiver, les panaches noires frissonnent, un vent mauvais s'abat, épaissit les doigts des porteurs, couleur de gros vin rouge. La mer en noir, mauve, violet, voleuse des nuits, c'est la sorcière dont l'industrie cachée vous met au monde, celle qui vous berce, vous choie, vous met en bière, quand elle n'abandonne pas, ultime joujou, à vos mains qui le posent gentiment au cercueil, son corps recroquevillé. La mer en noir, en bleu, en vert, en rouge, c'est l'immortel jauni, le bouquet poussiéreux de mariée. Vierge claire, elle a pourtant gémi quand l'homme, charpentier de douleur, lui a mis aux entrailles, à la cheville, la pierre d'angle, la clé de voûte, afin qu'en un recoin du sanglant édifice prospère et nidifie l'humain malheur. La mer bête en folie, c'est le volcan tumultueux qui vous crache, mais le cratère, jetant sa pourpre de cendre, son paquet de lave brûlante, lui, n'a jamais souri. La mer, statue aveugle, fatalité dressée au centre du sanctuaire inviolé, c'est la nature qui vous caresse, le vent qui vous encense, le monde qui tout ensemble vous pénètre, vous monte au ciel, enlevé sur les multiples spires, et vous pourrit. La mer, c'est la chienne et l'ogresse, la goule qui hante les songes, le spectre réveillé soudain qui s'interpose entre l'âme, riche pilastre, altière ruine, et toute joie, tout pur amour. La mer, qu'elle soit jeune ou vieille, belle ou laide, miséricordieuse ou têtue, c'est la caricature, le monstre femme jaloux, le prototype déchu, si tant est que l'idée, pitié flétrie juchée sur le trépied de son austère majuscule, n'est que la parodie des vives, légères, chatoyantes pensées. La mer, sa hanche, ronde ou sèche, son sein, tremblant ou dur, c'est le déclin promis dès l'origine à toute femme. L'émiettement progressif de la roche étincelante sous le flot des monstrues, l'ensevelissement lent sous le sable du désert âgé, de la caravane luxuriante et chargée de beauté. La mer, ange de la mort qui épie, de l'univers qui enlace, de l'amour que la vague du temps rejette. C'est la coquille au graphique insensé, signe d'un survenin, à lancer dans les vasques profondes, génératrice de cercles pour les eaux oubliées. La mer, flaque sombre, éternellement en deuil de tout et de nous-mêmes, c'est la pestilence vaporeuse qui s'irise et qui crève, enfant bulle par bulle, sa grande ombre bestiale, honte de chair et de lait, voile roide qu'une foudre encore à naître devrait déchirer. Viendra-t-il jamais à l'esprit d'une de ces innocentes salopes de se traîner pieds nus dans les siècles pour pardon de ce crime nous avoir enfantés? C'est magnifique.
Vous souriez, Jacques Dupin.
Non, parce que ça me rappelle en effet des choses que j'ai écrites.
Oui.
Mais que je n'avais pas à l'esprit quand je les ai écrites, mais c'est, ça rejoint beaucoup. Ça, c'est un poème qui a dû comme ça se mettre à moi. Se réveiller. Moi, je ne l'ai pas entendu dire, je ne serais pas poète, j'ai entendu dire qu'il était, qu'il pensait qu'il était poète. Et je pense aussi, parce qu'il n'est pas seulement poète le peu de poèmes qu'il a, finalement, il n'y en a pas tellement de poèmes qu'il a écrits, des poèmes au sens précis du mot. Mais son comportement avec la langue, c'est celle d'un poète, absolument, je trouve. Il y a une attente, une écoute de la langue, et puis un travail de la langue qui relève pas d'autre chose que de l'expérience poétique, en tout cas pour moi.
Donc cet aspect inconsolable du fait de ne pas être poète qu'on retrouve dans La Règle du jeu, à votre avis, il l'a résolu?
Non, c'est pas si simple, il ne l'a pas résolu. En effet, il a pu toujours penser qu'il n'était pas poète et qu'il n'était pas assez, ou il n'était pas assez fort dans ce domaine, sur ce terrain, mais... je crois qu'il le disait aussi pour qu'on lui dise le contraire, pour qu'on le rassure et qu'on lui dise qu'il était poète. C'est ce qu'il souhaitait entendre, je pense. Il suffisait de le rencontrer et de le regarder une minute pour déceler sur son visage et sur son corps même cette extrême tension qu'il n'arrivait pas d'ailleurs à se départir. C'était quelquefois des mouvements, des élans d'enthousiasme et d'intérêt, mais aussi, la plupart du temps, une sorte de crispation qui avait l'air de le torturer. Enfin, je me souviens d'abord de ces silences où il ne pouvait pas arriver à articuler ce qu'il avait, ce qu'il ne manquait pas de penser en même temps, mais aussi ces froncements du front très caractéristiques qui venaient tout le temps comme ça changer son masque et le rendre assez troublant et poignant, enfin, dans le contact. Mais tension, c'est aussi toute la vie et l'œuvre de Léris qui était... qui essayait de résoudre des contradictions multiples qu'il vivait d'une manière intense. C'est l'intensité aussi qui crée la tension, n'est-ce pas? Et j'ai aussi, moi, je l'ai connu plus particulièrement quand il a eu des relations avec des peintres, et qui étaient pour la plupart aussi des amis personnels. Donc nous avions des amis communs, et je l'ai rencontré à maintes reprises dans les ateliers des artistes ou bien dans d'autres lieux où on sentait cette tension par cette... Il avait une espèce de... Il avait beaucoup de scrupules, de respect pour l'autre et en même temps des doutes sur sa manière d'être vis-à-vis de ses amis ou des peintres qu'il fréquentait. Et c'était un comportement tout à fait particulier, singulier de Michel Léris, que je n'ai vu chez personne d'autre. En général, les relations avec les artistes sont faciles, parce que pour un écrivain, c'est vraiment le contraire de ce qu'il est, et c'est quelque chose de rassurant, enfin, un peu comme aller dans un atelier, c'est un peu comme aller à la campagne chez des paysans et parler avec un agriculteur qui vient de labourer son champ et qui parle de ses vaches. Mais pour Michel Léris, non, il y avait une sorte de défi dans l'abord des artistes, et un immense scrupule à essayer d'être, de se porter à sa rencontre, avec des grandes difficultés qui se voyaient dans son comportement et sur sa façon d'être.
Vous êtes allé à Saint-Hilaire, dans la maison de campagne?
Non. Non.
Et quel écran aux Augustins, oui, j'imagine.
Ah oui, ça, souvent, oui.
Quelle impression donnait l'appartement?
Bon, je ne veux pas trop m'aventurer, mais c'était évidemment pas un appartement, c'était évidemment pas la maison de Michel Léris, mais la maison de Ken Veller. C'était d'abord un appartement comme ça de grand standing, rempli de tableaux. Et il avait plutôt l'air, Michel, d'être en représentation, quelqu'un d'autre, que chez lui. C'était, sauf son bureau, mais ça, je suis allé qu'une fois ou deux, mais pas plus. Sinon, il recevait dans une espèce de boudoir, très, très chic, avec un maître d'hôtel qui venait apporter des jus de fruits. Et il était toujours assis sur le bord d'une chaise. Non, on n'avait pas l'impression qu'il était tellement à l'aise dans cette maison. Non.
Ce qui est curieux d'ailleurs, Jacques Dupin, et on le sait puisqu'il a souvent écrit lui-même, souvent dit, c'est que Michel Léris travaillait dans la chambre conjugale, aussi bien d'ailleurs qu'est des grands Augustins qu'à Saint-Hilaire.
Ouais.
Comme s'il y avait, et qu'on vient d'entendre le poème sur la mer.
Ah oui, ça c'est les contradictions de Michel Léris. C'est des contradictions très, très fécondes, enfin, qui l'ont doté d'une énergie farouche, bien que il était fragile, et il avait l'air plutôt très, 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 très peu enclin, enfin, aux bagarres, mais il était je sais pas comment m'exprimer. Cette fragilité était comme un fil d'acier tendu aussi, hein, c'était pas... Et quand il voulait quelque chose, ou bien quand il voulait faire respecter quelque chose qu'il n'hésitait pas à se montrer très, très, très dur et très... Et pas du tout. Il n'y avait aucune faiblesse dans son comportement.